Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Texte que le pape nous a offert, le dernier qu'il nous a proposé, une exhortation apostolique, Christus vivit, le Christ vit. C'est pour cette première méditation une espèce de présentation. Il y aura beaucoup d'idées. Ça ne sera pas vraiment une méditation, je pense. Mais pour qu'on soit bien situé, dire un peu le contenu, puisque peut-être tu l'as lu, mais peut-être pas. Et nous prétendons terminer le séjour en étant beaucoup plus près du pape, bien unis au pape. Et puisque le thème, c'est la jeunesse, donc c'est toi, le pape l'a écrit pour toi, cette exhortation apostolique. Il y a eu un synode, c'est pourquoi l'exhortation apostolique post-synodale, hein, qui portait sur ce sujet-là, qui a eu lieu à l'automne 2018, et le pape nous a donné, en 2019, en mars, il a signé à la maison de Lorette, et il a rendu public le 2 avril 2019, donc c'est vraiment récent. On est en train de parler de ce que le pape a dans son cœur. Je lis pour commencer trois lignes de cette exhortation apostolique. Il vit le Christ, notre espérance, et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Lui, le Christ, la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc, deux points, le Christ vit et il te veut vivant. C'est comme cela que démarre l'exhortation apostolique. Christus vivit. Suite donc cette exhortation à un synode, une réunion d'une bonne une quantité importante de personnes, un nombre important d'évêques, de cardinaux, sur les jeunes, c'était le thème du synode, les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. C'est, encore une fois, cette méditation est un petit peu technique, un petit peu, qui détaille un peu le document, on va le dire, mais c'est la quatrième exhortation apostolique du pontificat du pape François. Après, je te rappelle les trois premières, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Gaudete et Exultate, que tu as peut-être lu. C'est un beau programme. Peut-être que la suite ou la conséquence, la résolution de ce séjour dans les pays baltes pourrait être, tiens, on a détaillé un petit peu avec et grâce à l'abbé, on a détaillé la dernière, pourquoi pas lire les trois précédentes, chacun de son côté. Hein? Bien. Christus vivit, celle qui nous occupe, est composée de 9 chapitres. Divisé en 299 paragraphes. C'est pas très court, c'est pas très long, c'est pas très. Le pape l'a écrit en espagnol, dans ce style très personnel qui est le sien. On y reconnaît bien sa plume et le type de formule qu'il affectionne particulièrement. Et comme nous avons dit, donc, c'est un texte du pape, mais en même temps aussi est le fruit de tout un processus synodal. de beaucoup d'évêques, de cardinaux, d'archevêques, de jeunes aussi, de prêtres, des experts, de théologiens. Le pape dit, dans l'introduction de ce document, « Je me suis laissé inspirer par la richesse des réflexions et des échanges du synode de l'année passée. » Et donc, cette exhortation apostolique cite abondamment le document final du synode, tout comme le document final du pré-synode qui avait eu lieu avant pour préparer le synode. Et si ce texte s'adresse particulièrement, dit le pape, aux jeunes de 16 à 29 ans, donc c'est la génération qui est ciblée par ce dernier synode, donc toi, tu es en plein dedans, mais il concerne aussi plus largement tout le peuple de Dieu, donc moi aussi. Et l'histoire, également marquée ces derniers temps par cette crise des abus dont les médias parlent, avec plus ou moins de discernement d'ailleurs. Mais le pape évoque également cela. Donc, nous entrons petit à petit dans ces chapitres. L'introduction, je viens de rappeler ce que le pape dit lui-même. Je n'invente rien dans mes propos, évidemment. Ces 9 chapitres, donc, qui sont, je pense, un véritable petit traité de vie spirituelle et de vie pastorale. Donc, pour que les jeunes et les moins jeunes progressent dans la vie spirituelle, mais aussi pour savoir comment, jeunes et moins jeunes, nous y prendre dans la vie de l'Église, dans l'action qu'on peut porter et mener de l'avant dans l'Église pour les initiatives, pour les apostolats, pour l'organisation, pour les séjours. Nous sommes dedans. Le pape en parle des séjours qui ont une teneur comme celle qui est la nôtre pour ce séjour. Premier chapitre. J'ai l'impression qu'en préparant ça, j'allais de moins à plus. Habituellement, on développe beaucoup le premier chapitre, le deuxième un peu moins, le troisième, et les derniers, on n'a pas le temps. Et puis, on dit deux mots. Là, en préparant, j'ai passé presque la journée à ça, donc je me suis rendu compte que je développais de plus en plus. Le but, ce n'est de rien développer, mais de donner un aperçu. Premier chapitre. Que dit la parole de Dieu sur les jeunes? Et donc, le démarrage de cette exhortation apostolique est un bref, ou un, quand même pas si bref que ça, parcours biblique qui permet de méditer justement que dit l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il a soufflé aux différents auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament à propos des jeunes. Et donc, et nous voyons le pape, c'est très intéressant, ça sera l'objet de la première méditation que je vous prêcherai demain ou après-demain. Et où on voit comment le pape fait des allusions à des figures très différentes avec le dénominateur commun de la jeunesse. C'est-à-dire, disons, qu'est-ce que l'Esprit Saint veut souligner, mettre en relief des personnages divers et très variés, mais jeunes, garçons comme filles, le jeune Joseph, ce jeune frère, Gédéon, Samuel, David, Salomon, jeune, Jérémie, la jeune servante hébraïque de Naaman, la jeune fille Ruth. On le verra un petit peu dès la prochaine méditation. Et du Nouveau Testament. Mais c'est très important de voir l'importance et la fréquence des jeunes et le rôle que les jeunes jouent dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Et donc, le pape, qu'est-ce qu'il fait? Et nous le ferons avec lui. Parcours, n'est-ce pas, ces jeunes personnages qui sont présents, j'allais dire, les plus frappants pour nous, les plus parlants pour nous, dans les évangiles. On le verra rapidement lorsqu'on consacrera une méditation à ces jeunes tels qu'ils apparaissent dans la Bible. Deuxième chapitre, vous voyez, c'est pas très long. Deuxième chapitre de l'exhortation apostolique concerne Jésus-Christ. Le pape a voulu que les trois premières lignes, on les a lues de l'exhortation apostolique, mettent en relief cette jeunesse qu'on a toujours avec Jésus. Mais là, dans le chapitre donc 2, le successeur de Pierre aborde le thème des années de jeunesse de Jésus, le jeune Jésus, l'adolescent Jésus. Et c'est les descriptions qui nous sont données par les évangiles. Donc, l'adolescence du Seigneur, et puis des haltes très caractérisées. Par exemple, le retour avec ses parents à Nazareth après cet épisode de l'enfant perdu et retrouvé au temple. Cinquième mystère joyeux de ce que nous évoquons dans le chapelet. Et le pape dit, nous ne pouvons pas penser que Jésus était un adolescent solitaire ou un jeune qui pensait à lui-même, qui s'isolait, pas du tout. Les rapports avec les gens étaient celles d'un jeune homme qui partageait la vie dans une famille qui était donnée et qui communiquait avec le peuple, avec le village. Personne ne considérait Jésus comme étant quelqu'un d'étranger ou quelqu'un qui aurait été à l'écart. Et le Saint-Père montre que ce Jésus adolescent jouissait de la confiance de ses parents. Un adolescent pas conflictuel, alors que la plupart des adolescents sont pas faciles. Vous avez peut-être des frères et des sœurs qui sont en plein dedans. Et vous dites, mais disons, moi peut-être j'ai traversé des périodes où je suis encore un petit peu dedans. Mais le Saint-Père dit que Jésus, adolescent, 12 ans, c'est un jeune adolescent, eh bien, qu'il vit librement et que, voilà, il entreprend de marcher avec les parents ou pas les parents, avec des parents éloignés, pas papa et maman. Et puis au point que papa et maman croient qu'il est avec des cousins, avec, dans la caravane un peu plus avant, et lorsqu'ils s'en aperçoivent, tiens. Bref, le pape dit, nous devons approfondir de l'enfance, de l'adolescence de Jésus pour comprendre des choses importantes. Nous ne pouvons pas ignorer. Et ça fait partie de cette pastorale de la jeunesse, juvénile. Le Seigneur, l'amour du Seigneur, l'imitation du Seigneur ne nous éloigne pas du tout des autres. Loin de là, ne nous éloigne pas du tout du monde. Loin de là. On n'est pas à l'abri des contagions du monde. On peut être contaminé par les choses du monde parce qu'on est dans le monde. Mais c'est grâce au projet que l'on a, à la force qu'on a là-dedans, à la foi que l'on a là-dedans, à la pratique religieuse, que nous pouvons faire face et surmonter et vaincre et témoigner. Donc ne pas avoir peur, mais en accomplir la mission que Dieu veut pour chacun. Et le pape dit, laissez-vous éclairer par la jeunesse de Jésus, dès l'extérieur, à l'intérieur, partager avec Jésus des projets, même un petit peu téméraires parfois. Avec le Seigneur, nous pouvons être vraiment source d'activités, d'actions très belles. Avec le Seigneur, nous pouvons nous maintenir vivants, jeunes, ambitieux, nourrir de grands idéaux et être en mesure de proclamer, annoncer une vie qui est digne d'être vécu. Apprenez cela de Jésus. Et le pape, évidemment, nous conseille de nous imbiber, de nous imprégner des enseignements de la figure de Jésus pour présenter Jésus aux autres d'une façon attirante, belle, efficace. Le pape François nous conduit ensuite vers une méditation sur la jeunesse, de l'Église, qui est appelée toujours à se renouveler grâce au Christ. L'Église est jeune parce qu'elle vit du Christ qui rajeunit tout ce qu'il touche, tout ce qu'il imprègne. C'est pourquoi l'Église n'est jamais tournée vers elle-même, mais elle reflète surtout Jésus-Christ. L'Église montre Jésus-Christ, toujours jeune, toujours conquérant. Et l'Église reconnaît qu'il y a des choses qu'elle doit changer. Parce que l'Église comprend, et les membres de l'Église, que la jeunesse est une attitude du cœur. C'est pas une question d'âge. Avant d'être une question d'âge, Être jeune est un état d'esprit. On le verra un petit peu aussi dans une autre méditation. Troisième chapitre, vous êtes le maintenant de Dieu. Chapitre très beau, vous êtes l'aujourd'hui de Dieu. Nous ne pouvons pas nous limiter, dit le pape à peu près, je synthétise beaucoup, nous ne pouvons pas dire que les jeunes sont le futur de l'Église. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous, jeunes, vous êtes le présent de l'Église. Vous enrichissez l'Église maintenant. Ne vous projetez pas uniquement vers l'avenir, parce que sinon on peut attendre, alors que vous avez un rôle très important à jouer maintenant, et vous avez toujours une nouveauté à apporter maintenant. Même grâce un petit peu, ou souvent grâce à la provocation que tout jeune a. Nous, les adultes, dit le pape, nous avons un risque de faire une liste des désastres et des défauts, même de vous, jeunes, et des désastres de notre époque. Mais cette attitude-là, dit le Saint-Père, si je synthétise bien, eh bien, crée des distances de plus en plus grandes avec les solutions, avec la réalité. Nous, plus âgés, appelés à être des papas, des pasteurs, des guides, eh bien, nous devons avoir la capacité d'identifier nos chemins avec les vôtres et de ne pas voir des murs qui se dressent, qui nous empêchent d'avancer. Parce que lorsqu'on voit les difficultés, les obstacles, hein, eh bien, on se cogne à des murs qui vous ralentissent, qui vous arrêtent net et dit non. Priez pour que nous ayons la capacité de reconnaître, d'identifier ces chemins et ces dangers, pour les surmonter, pour avoir le même regard que le Christ a, que Dieu, la Trinité Sainte a sur les obstacles, sur les qui peuvent se présenter. Et là, nous pourrons semer avec une grande jeunesse et nous projeter vers l'avant. Que chaque cœur de jeune soit considéré comme une terre sacrée où la semence, la graine est semée et pousse. Le Saint-Père, dans ce chapitre important, intéressant, parle aussi des désirs, parle des blessures, parle des découvertes, parle de la sexualité. Ce monde qui est tellement marqué par la sexualité, où il est tellement difficile de maintenir une bonne relation avec son corps, son propre corps, où on a du mal à vivre des relations affectives équilibrées et justes. Et c'est pourquoi la moralité concernant la sexualité peut être aussi un espace difficile à vivre. Un espace de jugement, un espace de condamnation. Entre générations, et les jeunes entre eux, eux-mêmes aussi. Et le pape parle du développement des sciences et de la technologie biomédicale et des neurosciences. Et donc cela peut nous éloigner de la réalité profonde, par exemple, de tout ce qui a un lien avec la sexualité, parce que c'est le cas. Et de ne pas s'abandonner à ceux qui ont le pouvoir technologique. Et le pape, évidemment, fait le lien par la suite avec l'ambiance et l'univers digital qui a créé cette nouvelle forme de communication ou d'isolement. Parce que bien souvent, au lieu de favoriser la communication, favorise l'isolement, l'indépendance, l'égoïsme, l'enfermement sur soi, dans sa tour d'ivoire. Vous voyez, des sujets qui sont mis en relief et en rapport par le Saint-Père, et en disant, dans beaucoup de pays, la web, ou le web et les réseaux sociaux sont un moyen incontournable pour atteindre les jeunes. Oui, mais tous les risques de ces moyens qui sont un gros avantage, un gros progrès, mais en même temps qui sont une source incroyable d'addiction, et donc des catastrophes, d'isolement, de perte progressive de contact avec le monde réel à cause de ce monde virtuel. Le pape, dans ses communications, dans ses relations qui touchent au monde entier, ne manquera pas, bien sûr, de parler de la migration et du rôle de l'Église dans la migration à l'égard de ces personnes qui fuient la guerre, qui fuient la famine, qui fuient la violence, qui fuient les persécutions politiques ou religieuses. Et en disant là, vous, jeunes, vous avez un rôle à jouer extraordinaire, vous vous rendez pas compte de la portée de ce que vous devez faire, de ce que vous avez l'appel, la vocation à accomplir un jour. Grandissez, nourrissez-vous, formez-vous. Et... j'arrête parce que... quatrième chapitre. La grande annonce pour tous les jeunes qui prend la forme d'une catéchèse biblique. Pourquoi ? Parce qu'il faut annoncer aux jeunes le message central de la foi chrétienne. Dieu est amour. Dieu t'aime. Dieu aime chacun. Dieu est un père qui voit les besoins, les tiens, et qui respecte ta liberté. Incroyable. Pour Dieu, tu es précieux. Tu es important. Et ça, il faut le dire aux autres. Il faut le croire et le dire par la suite à tout le monde. Et là, c'est pourquoi le pape poursuit cette annonce du kérigme, ce mot qu'il aime beaucoup. C'est-à-dire, le Christ sauve, le Christ te sauve, le Christ est vivant pour te sauver, le Christ est présent et présenté aux jeunes comme un ami. C'est peut-être le sommet, je pense, de l'exhortation apostolique. Cet ami avec qui tu peux tout traverser, les océans, les continents. Cet ami qui fait vivre et qui rend chacun plus vivant. Au paragraphe 129, si tu parviens à apprécier avec le cœur la beauté de cette nouvelle et que tu te laisses rencontrer par le Seigneur, si tu te laisses aimer et sauver par lui, si tu entres en amitié avec lui et commences à parler avec le Christ vivant des choses concrètes de ta vie, eh bien, tu feras la grande expérience, l'expérience fondamentale qui soutiendra ta vie chrétienne. N'est-ce pas ces vérités impressionnantes dans ce chapitre? Je crois qu'il y en a trois, chapitre 4, donc trois vérités impressionnantes. La première de ces vérités, c'est que Dieu, qui est amour, t'aime, ne met jamais cela en cause. Deuxième vérité, le Christ, qui t'aime, te sauve. N'oublie jamais qu'il pardonne 70 fois, 7 fois. N'oublie pas qu'il te porte sur ses épaules. Et il va chercher jusqu'à la dernière des brebis ou des blessés. Troisième vérité, le Christ est vivant. Ne pense jamais que le Christ est un personnage passé, un personnage qui a vécu, qu'on lit dans des bouquins poussiéreux. Ça serait atroce. Comme quelqu'un qui aurait sauvé il y a 2000 ans. Le Christ nous sauve à chaque moment de prière, comme maintenant, à chaque messe, à chaque visite du Saint-Sacrement, que peut-être nous faisons ici d'une façon un petit peu parfois un peu virtuelle ou un peu éloignée, ou peut-être pendant l'action de grâce, parce que si on n'a pas la chance d'aller dans une église, on n'a pas le Saint-Sacrement ici. Donc, mais nous faisons des visites mentales, spirituelles, fréquentes, auprès de ce Christ qui est vivant. Et qui nous délivre, qui nous sauve, et qui n'attend qu'une chose, que nous éprenions de lui, c'est prendre de lui, tomber amoureux de lui, vraiment. Chapitre 5. Les chemins de la jeunesse. Où le pape souligne avec beaucoup de force que la jeunesse est un don de Dieu. parce que Dieu est l'auteur de la jeunesse, et que la jeunesse donc est ce don et qui œuvre en chaque jeune. Le Christ œuvre d'une façon particulière chez les jeunes. La jeunesse est un temps béni pour le jeune, et une bénédiction pour l'Église, et une bénédiction pour le monde. La jeunesse est une joie et un champ d'espérance, et une béatitude. Dans une belle réflexion anthropologique sur ce qui est fondamental dans cette période particulière de ta vie, la jeunesse, il dit « La jeunesse est un rêve, un temps de rêve et un temps de choix. » Le jeune est celui qui marche habité par une promesse de vie. Je vis maintenant, mais je suis penché vers l'avenir, vers tout ce qui attend. Et tout l'enjeu est alors pour lui de trouver concrètement la joie et la vie pleine, en osant prendre de bonnes décisions. Un temps de rêve, un temps de choix. Et le pape indique clairement le chemin à suivre. Le chemin est Jésus. Il faut faire monter Jésus dans sa barque, dans son bateau, et avancer au large avec lui. Il est le Seigneur, il change la perspective de ta vie. Avancez au large, vous, chers jeunes, sortez de vous-même. Approche donc anthropologique et approche très existentielle, autour d'un mot qui revient dans tous les chapitres, l'amitié. On a parlé, et on a parlé d'amour, c'est de l'amitié. L'amour d'amitié, l'amour filial, l'amour paternel, l'amour du Christ à notre égard, l'amour fraternel. Donc c'est toujours cette amitié particulière qu'on doit nourrir, et nous passons notre vie à nourrir des amitiés profondes, même si on a souvent des déceptions, sauf avec le Christ, le seul qui ne déçoive jamais. Et le pape propose, en suivant un petit peu le style des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, propose aux jeunes de vivre la jeunesse comme une expérience intérieure de croissance pour porter davantage de fruits, en osant se laisser pleinement rejoindre par le Christ qui veut pour chacun une vie plus grande pour être plus en se donnant. Plus on se donne, plus on grandit, plus on mûrit, plus on s'épanouit, parce qu'on vit du Christ qui nous donne d'être jeunes. Les saints sont toujours très jeunes. Ce long chapitre central de l'exhortation se termine en évoquant la dimension toujours communautaire et sociale de la suite du Christ, avec un premier temps, un chapitre appelé « Sentier de fraternité », un deuxième temps, titré « Jeune engagé ». Et c'est là qu'il y a un paragraphe, je le lirai concrètement, qui est extraordinaire, où le pape fait jusqu'à 11 comparaisons dans un petit paragraphe, il y en a deux par ligne, en disant que ne regarde pas la vie depuis un balcon, ne passe pas ta vie devant un écran, ne sois pas une voiture cramée, abandonnée, ne sois pas une voiture parquée dans un parking. Ne regarde pas le monde comme un touriste. Etc. On le lira, on le commentera. Mais vraiment, c'est une densité extraordinaire de la part du pape. Sixième chapitre. Soyez des jeunes avec des racines. Je pense à la formation. Prenez la ferme résolution de vous former toute votre vie durant, pour être en mesure de vous développer, d'être plus intelligent, pour être plus libre, plus enthousiaste, plus créatif et créateur, pour voir des horizons nouveaux. Grâce à la formation, on voit jusqu'où on peut aller, on peut aller beaucoup plus loin. Et là, vos racines seront de plus en plus ancrées, nourries, vous, de plus en plus épanouis pour aller et pour voir et pour entreprendre toujours plus loin. Et là, cette formation et les racines, vous les aurez grâce aux vieux. Le pape parle de cette compénétration qu'il doit y avoir entre vieux et jeunes pour avoir des guides, pour avoir des gens qui vous conduisent, des gens qui vous canalisent, des gens qui vous préviennent et qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin en évitant des erreurs que les vieux connaissent parce qu'ils sont déjà passés par là. Chapitre 7, la pastorale des jeunes. Et là, le Saint-Père énonce trois grandes lignes d'action qu'on développera peut-être dans une méditation. La recherche, n'est-ce pas ? Trouver, rechercher d'autres jeunes, donc pour la pastorale, s'appuyer sur d'autres jeunes, être apôtre, avec d'autres mots. Hein. Deuxième mot, la croissance, c'est-à-dire le fait de aider les autres à enraciner leur vie chrétienne et créer, organiser des expériences ponctuelles qui permettent de grandir dans l'amour du Christ et dans l'amour fraternel et qui permettent d'annoncer ce kérigme, parler du Christ vivant, du Christ sauveur, être enthousiaste pour entraîner d'autres personnes, oui, de participer à la pastorale des jeunes avec d'autres, souvent, directement ou indirectement, en sentant la responsabilité personnelle, en créant des écoles, en participant dans des écoles, en faisant des réunions de prière, en participant à la liturgie, le service des autres, des expressions artistiques, sportives, humanitaires. Nous sommes en plein dedans. En protégeant l'environnement, en adoration, le scoutisme, le pape l'évoque, l'eucharistie, le sacrement du pardon, la pastorale touche à mille choses. On se rend compte que lorsqu'on réfléchit, mais dis donc, on peut partir, et chacun participe des façons qu'il veut. Il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que 10. Il y en a des centaines. Et puis les jeunes toujours inventifs, il y en a toujours de plus en plus, on dirait. En tenant toujours compte de ces bénéfices, de ces bienfaits, lorsqu'on peut compter sur la compagnie et l'accompagnement des adultes. Oui, dans l'accompagnement personnel et dans l'accompagnement communautaire aussi. Le chapitre 8 sur la vocation, chapitre puissant, mais je dois terminer, donc je tombe dans mon propre piège. On a trop dit. On aura la chance d'en parler, la vocation. Dernier chapitre, le discernement. Très beau chapitre, très puissant chapitre. Nous aurons l'occasion d'y revenir sur le discernement vocationnel, sur le discernement dans l'amitié, pour savoir découvrir de plus en plus le Christ, aimer le Christ, reconnaître les appels du Christ, n'est-ce pas ? Chers jeunes, je termine en citant un mot du pape. Je serai heureux en vous voyant courir plus vite, qu'en vous voyant lent et peureux. Courez, attirés par ce visage tant aimé que nous adorons dans la Sainte Eucharistie et que nous reconnaissons dans la chair de notre frère qui souffre, tous nos frères. Que l'Esprit Saint vous pousse dans cette course en avant. L'Église a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous en avons besoin, nous. Et quand vous arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés, nous, ayez la patience de nous attendre, comme Saint Jean à l'égard de Saint Pierre lorsqu'il arrive au tombeau. Vierge Marie, que de choses avons-nous dites, que de choses n'avons-nous pas dites, faute de temps aussi, comme toujours. Mais nous aurons quand même l'occasion de faire des méditations, d'approfondir tout ça, et en sachant quelle joie de pouvoir suivre de si près le pape, de suivre de si près les catholiques du monde entier. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.